Chers amis, en ce début d'année, nous voulons en effet remettre notre destin, notre futur entre les mains sûres du Seigneur. Je pense qu'il fait bon de parler du commencement de l'année, mais le plus important, c'est de commencer une vie nouvelle. Car en général, les résolutions du 1er janvier durent 8 jours. Il y a encore 2 jours pour être dans le ton. Mais tout s'envole vite parce que nous n'avons pas la capacité de nous changer nous-mêmes. Et le prophète Ésaïe dit « Comme un léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau, ses taches. » Et des taches, nous en avons, qui malgré les plus grandes résolutions, réapparaissent toujours. Pourtant, je pense qu'au-delà du rythme des années, on peut connaître un changement de vie, pas d'année, de vie. Puisque la Bible dit, par le prophète, par l'apôtre Paul, quand on appartient au Christ, on devient une nouvelle création. On ne peut pas s'approcher de cette source de lumière incandescente, d'amour, sans être soi-même transformé. Le Christ nous transforme, année après année, instant après instant. Je voudrais vous montrer dans la Bible 3 personnages, je pourrais en citer beaucoup, des contemporains, des anciens, des personnages qui, en découvrant l'épiphanie du Christ, ont été transformés. Mais s'ils sont cités dans la Bible, c'est pour nous dire « cela va t'arriver aussi à toi ». Car il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas les bons et puis le reste. Nous sommes tous appelés par une même grâce à une même gloire. Alors je ne vais pas vous lire le récit de ces vies, mais simplement un petit texte qui est beau et frais pour commencer l'année 2013. C'est dans l'Épître aux Romains. Épître de Paul aux Romains. Nous connaissons bien ce texte. Et au verset 35, chapitre 8, verset 35. Réécoutons 20 siècles après cette lettre envoyée aux chrétiens de Rome, mais à tous les chrétiens du monde. Apprécions l'actualité de ces paroles, apprécions aussi la justesse et ayons le courage de se dire « c'est pour moi aussi ». Romains chapitre 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je prie le Seigneur devant cette parole que je reçois comme vous en ce jour. Seigneur, mets ta lumière dans nos cœurs et sur notre chemin. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Le prince des ténèbres est aujourd'hui à l'œuvre partout. Mais la lumière s'est levée. Elle éclaire tout homme. Elle nous éclaire aujourd'hui, afin que nous passions dans le royaume de Dieu. Que nous passions par ce passage étroit, ce passage douloureux, qui est la mort de Jésus. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui la vie nouvelle. Et qu'en cette année, nous la commencions, chacun pour notre part, ou que nous la continuions, car tu nous y appelles et tu nous y aides chaque jour. Amen. Quand on dit le mot épiphanie, oh, je devrais faire un micro-trottoir. Vous savez, dans la rue, on interroge les gens. Et si je disais aux Rennais, aux Rennaises, qu'évoque pour vous à l'instant même le mot épiphanie? Galette! Non. Couronne de roi. On a oublié le sens de ce mot. On a des mots grecs qu'on emploie souvent et on ne sait plus la signification. Tenez, comme le mot église, qui signifie tout simplement assemblée. L'église, elle est devant moi. Et quand vous serez partis, il n'y aura plus d'église. Et puis dimanche, elle va revenir. Épiphanie veut dire manifestation, apparition. Quand un roi arrivait dans une ville, on disait l'épiphanie du président ou du roi, la venue, la manifestation. Si je vais chez vous, ne dites pas c'est l'épiphanie du pasteur. Mais c'est un peu ça quand même. On se manifeste, on va quelque part. Eh bien, Dieu s'est manifesté. S'il était resté caché dans ses appartements merveilleux, j'imagine, nous serions les plus misérables et les plus malheureux des hommes. Le ciel a ouvert sa porte. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il voit dans le ciel une porte ouverte. Et quand Jacob, en fugue, a une vision la nuit, il voit la porte du ciel ouverte et une échelle pour aller vers le ciel. Mais à quoi nous servirait une porte ouverte dans le ciel si nous ne pouvons pas y monter? Le seul qui est monté dans le ciel, seul, l'apôtre Jean le dit dans son évangile, c'est celui qui est descendu du ciel et qui nous emmène avec lui. Là où je suis, vous y serez aussi. Et celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, Roi des rois. Que son nom soit glorifié. Amen. Je vous montre trois personnages de la Bible qui ont connu une épiphanie, mais ce n'est pas arrivé pour que nous le regardions comme un objet de musée, un objet insolite, au-dessus de notre compréhension ou de notre portée, nous qui sommes simplement des gens simples. Ces trois personnages s'appellent Abraham, Moïse, Élie, Paul. Je pourrais en citer des dizaines d'autres, des gens de la Bible, des gens de l'histoire de l'Église, des gens que je connais, et pourquoi pas mon propre témoignage. Mais je vais me résumer et me réduire aujourd'hui à cause du temps qui passe, parce que bientôt c'est le 31 décembre, ça approche. Hein. Bien, réduire simplement à trois personnes. Abraham, Moïse et Paul, l'apôtre. Abraham, vous connaissez un peu. Que serait devenu cet homme dans les plaines de Babel? Vous connaissez Babel. C'est pas une marque de fromage. Hein. Babel, c'est cette tour que les hommes de cette époque-là ont voulu construire. Une tour infernale. Une tour digne de l'enfer, une tour avec des briques que l'on faisait depuis pendant des années pour aller jusqu'au ciel, pour toucher le ciel de Dieu et provoquer Dieu. L'être humain a toujours voulu provoquer Dieu par sa science, par sa morale ou son immoralité. Babel, c'est une terre de confusion, c'est une terre d'échecs. Nous avons dans l'histoire... Aujourd'hui, c'est le cas des échecs. L'humanité est sous le choc aujourd'hui par la crise économique, l'incertitude des temps, le déclin de la morale, la fuite de la religion. On est sous le choc, on est secoué, on ne sait pas de quoi demain sera. Babel, c'était la confusion, on ne se comprenait plus, c'était l'échec. Mais Abraham, Cet homme qui a une jolie femme, certes, mais qui n'a pas d'enfant. Cet homme sans histoire, cet homme tranquille, il n'a pas l'ambition de monter jusqu'au ciel de Dieu ou de toucher au Dieu du ciel. Il n'a pas cette ambition. Pour lui, une seule chose compte, sa Sarah bien-aimée, ses moutons et puis ses petits dieux. Parce qu'il croit dans certains dieux qui sont pas jolis à dire. Il croit dans le dieu lune. Tous les Babyloniens croyaient dans ce dieu-là. Tout se réduisait à ça pour lui. Sa petite religion, sa petite femme et ses nombreux moutons. Il faut mieux avoir de nombreux moutons que de nombreuses femmes. C'était ça sa vie, Abraham. Quand un jour, un dieu inconnu, qui ne faisait pas partie de la religion de son époque, lui est apparu, à lui, Abraham. Un dieu inconnu qu'il appelle le dieu de gloire, ce qui signifie le dieu qui transforme, le dieu qui transfigure, le dieu qui va changer la face de la terre, mais aussi la face de la vie de cet homme. Il l'appelle aussi le Très-Haut, parce que ce dieu, il est au-dessus de nos imaginations, au-dessus de nos images, au-dessus de l'être humain, un Dieu qui lui apparaît et Abraham lui fait instantanément confiance. Abraham n'a jamais douté de ce Dieu-là, qui ne s'est pas présenté, qui ne dit rien sur lui, qui ne dit pas ce qu'il fait, ce qu'il est. Mais ce jour-là, Dieu avait fait un pas important vers un homme sur la terre, Abraham, celui, et puis c'est moi aujourd'hui, c'est chacun de nous. Ça a commencé par lui. Avec une parole, quitte ton pays, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai, et tu seras une grande nation. Quel étrange Dieu qui commence avec une rupture. Il provoque une rupture. Il retire Abraham de ses repères, de patrie, de famille, de fausses religions, de fausses idées, de fausses fois. Ce Dieu qui arrache Abraham, qui arrache un homme, comme on arrache l'argile pour en faire un vase. Ce Dieu qui prend un homme par la main et qui le conduit pour faire de lui ce qu'il voudra. Ainsi agit Dieu avec nous. Il nous retire, il nous fait vivre un changement de cap, changement de direction. Avec une seule parole, Dieu ne lui donne qu'une seule parole, mais Abraham fera confiance totalement à la parole de ce Dieu, sans jamais douter. C'est comme si Dieu lui disait, « Je te promets cela, crois-tu ?» À nous, le Christ nous dit, « Je te promets une place auprès de moi dans mon royaume, le crois-tu ? Je pardonne tes péchés, le crois-tu ? Je te prends par la main pour te conduire par un chemin que tu ne connais pas, le crois-tu ? » Il nous invite à la foi, il nous invite à croire sans comprendre et sans voir. Abraham est ébloui par ce Dieu-là. Une vie nouvelle commence pour lui. Ce n'est pas une rencontre dans la rue parmi d'autres. Ce Dieu qu'il n'a pas vu avec ses yeux, mais qu'il a entendu, dont il a ressenti la présence, l'importance, le poids, la gloire. Ce Dieu-là, il va le suivre. Il lui fait confiance. Une nouvelle vie commence. Et là, Abraham, il va vivre comme un étranger sur la terre. Il va vivre comme un voyageur. Mais il sait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Mais pour lui, il ne va pas s'attacher aux choses provisoires de la terre, aux choses qui sont appelées à disparaître, à s'évanouir. Une seule chose va compter pour Abraham, Dieu, en qui il met son destin, en qui il met sa famille et son futur enfant. Abraham n'aura rien sur la terre. Dieu ne le fait pas roi. Dieu ne le fait pas un prince dans un grand palais, il n'a rien, il n'a qu'une seule propriété, la tombe de sa femme Sarah qui est morte. Sa tombe, c'est tout. Mais Abraham sa vie nouvelle, c'est que partout où il va, il est protégé par Dieu, il est avec Dieu. Et cela, pour moi, me parle, parce que nous aussi, nous connaissons des situations difficiles comme Abraham, et quand on peut dire « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », on peut dire déjà beaucoup de choses, on a une certitude. Abraham va connaître une guerre, une crise économique. Abraham va connaître des crises familiales dans lesquelles parfois il va se montrer, certes, un peu faible. Il est un peu sous la domination de Madame. Mais enfin, il va connaître ce tourment-là qui s'est emparé de notre siècle d'une façon particulière, particulièrement depuis le 11 septembre. Eh bien, Abraham va connaître cette tourmente. Il va connaître aussi une attente d'un enfant pendant 25 ans. Personne n'a d'attente par rapport à ses enfants ici. Personne n'a de souci par rapport à ses enfants. Abraham a cette attente, cette espérance d'un enfant qui va venir dans son grand âge. Et puis sa foi mise à l'épreuve par un temps qui passe et où rien ne se passe tellement, où rien ne se voit, sa foi qui pourrait s'user, qui pourrait changer, se transformer. Abraham reste confiant, il est avec Dieu, il s'appuie sur Dieu, épaule contre épaule, main dans la main, les yeux face au ciel, face à l'avenir de Dieu. J'ai confiance dans le Seigneur, il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le bouclier. Amen. Ça, c'est Abraham. Et vous savez comment Abraham fut appelé ? Ami de Dieu. Ami de Dieu. Dieu, je pense à des amis dans le ciel qui sont les anges. Dieu, certainement, a dans le ciel un peuple magnifique, splendide, en perfection. Eh bien, cet homme, Abraham, ce berger, ce nomade, cet homme qui vient de l'Irak, qui vient d'une terre de désolation, Dieu l'appelle mon ami. Mon ami, ça veut dire en qui je me confie. Je lui fais des confidences, je lui dis des secrets, je me repose sur lui. C'est mon ami, c'est l'ami de Dieu. C'est Abraham. Seigneur est proche de tous ceux qui font confiance et qui espèrent dans le Seigneur. J'ai l'impression qu'Abraham est vraiment un représentant de Dieu sur terre. J'ai l'impression qu'il est venu de loin comme Dieu lui-même. Et j'ai l'impression qu'il a voulu nous donner son Fils. Vous savez comment ? En l'offrant au sacrifice. Et je crois que Dieu a fait la même chose. Il est venu de loin et il nous a offert son Fils. Abraham est pénétré de Dieu de partout. Il est pénétré de l'Évangile. Il ne regarde pas la folie de Babel. Il ne regarde pas la folie de son siècle. Il ne regarde pas les choses passagères. Il regarde les choses éternelles. Il regarde au ciel où Dieu a construit une cité, une ville éternelle. Une ville dont Dieu est l'architecte, le constructeur, le passeur, la porte, le chemin. On est appelé à plus que nous sommes, à plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu éternellement. Ça, c'est pour une bonne année. Amen. Oui, nous sommes appelés à l'éternité. Il y a un homme nouveau dans Abraham. On ne peut pas rencontrer la lumière sans être nous-mêmes lumière. Il y a un homme nouveau, un homme jeune, qui dit toujours, jusque dans sa grande vieillesse, oui. À chaque fois que Dieu l'appelle, il dit « Me voici ». À chaque fois que Dieu lui dit « Abraham, une nuit, un matin, me voici ». Jamais il change de refrain, sans savoir pourquoi, sans savoir ce que Dieu va lui demander. « Me voici ». C'est un homme souple, un homme jeune, un homme quand il voit arriver des anges au bout de son chemin. Il court dans ses 90 ans. 99 ans, pardon, faut pas rajeunir. Il court vers les anges, il les accueille, il les reçoit, il leur fait à manger. C'est un homme qui croit dans l'incroyable. C'est un homme qui espère quand il n'y a plus d'espérance. C'est un homme qui est capable d'avoir aucune lassitude, aucun ennui, aucune révolte. Il ne change pas, il sait que Dieu est vrai, que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et il fait confiance. Nous sommes appelés à cette épiphanie, cette apparition de Dieu dans nos vies, pour nous changer de tout au tout. Amen. Il y a eu des hommes qui ont vécu cela. Je pense qu'à ma limite, à moi, dans l'espace de mon existence et de ma jeunesse, j'ai vécu cette apparition, cette épiphanie de Dieu qui transforme l'existence. Jamais plus, pas un seul jour que Dieu m'a donné de vivre et de respirer, j'ai été le même qu'avant. Chaque jour, ma pensée est tournée vers le Dieu sûr, certain, efficace, parfait. Amen. Moïse. On va aller de quelques siècles en avant. Il a entendu parler certainement dans sa jeunesse, sa petite jeunesse, son enfance. Il a entendu parler de la parole de Dieu très tôt, car ses parents étaient croyants d'Israël. Ils étaient en Égypte, une terre agréable, une terre splendide, une terre qu'on appelait, le jardin de Dieu. Tellement c'était beau, tellement c'était doux à vivre. Et cette terre d'accueil accueillit une famille juive dans un moment de famine, de sécheresse, de détresse, la famille de Moïse, les ancêtres de Moïse. Mais l'Égypte, terre d'accueil, est devenue camp de concentration. On disait aux sages-femmes, quand vous verrez un enfant mâle venir, vous le tuerez. Mais les sages-femmes disaient, c'est pas de notre faute quand on arrive où les femmes juives, elles ont déjà accouché. Tout cela pour dire, on va pas tuer les petits garçons. Alors le pharaon, devant ce peuple qui commence à pulluler, à grandir, le pharaon a ordonné que soient jetés dans le Nil tous les petits garçons, qu'on les noie tous, immédiatement. Et Moïse a été sauvé, vous savez comment ? Par sa mère, par sa sœur. Mais ce Moïse qui va grandir dans l'Égypte, dans le palais de Pharaon, n'a pas eu la vision du Dieu de gloire. On peut connaître Dieu sans le rencontrer, sans l'avoir vu face à face, sans l'avoir entendu du fond de son cœur, sans en avoir changé toute sa vie. Connais Dieu de famille, la tradition. Mais il faut un jour mettre ses mains dans les mains de Dieu et lui dire, ma vie est pour toi, Seigneur. Alors pour lui, Moïse, la religion, c'est un peu la politique. Et quand un jour, il va voir un Égyptien qui frappe un de ses compatriotes, il va tuer l'Égyptien. C'est un révolutionnaire. C'est un homme à qui il ne faut pas trop en compter. Mais à cause de ce crime caché dans le sable, enfoui dans le sable d'Égypte, du Nil, il va partir des années, enfoui, caché dans le désert et devenant gardien de troupeaux. 40 années pour une bêtise. Ça coûte cher, les bêtises. On fait quelque chose et toute la vie est cassée. L'éternité peut être cassée. Tout est cassé pour un détour. Mais le berger Moïse, en gardant un jour ses troupeaux, a remarqué sur la montagne un buisson tout en feu. C'était commun, rien de spécial à signaler. Sauf que le buisson en feu ne se consumait pas. Les feuilles restaient intactes, rien ne tombait en cendres. Toutes les brindilles, toutes les petites branches, tout était impeccable. Et le feu était dedans. Étonnant, un feu terrifiant. Et Moïse s'est détourné pour aller voir. J'espère que vous allez vous détourner dans l'année. J'espère que vous ferez quelques kilomètres et que vous ferez quelques heures de marche avec le Seigneur, vous détournant pour voir de près ce Seigneur qui vous aime, qui veut vous parler, qui s'adresse à vous aujourd'hui. Et en approchant de l'arbuste en feu, du buisson ardent, comme on dit. Voilà que le Dieu de gloire apparaît à Moïse. Le Dieu d'Abraham. Épiphanie de Dieu à nouveau. il nous attend dans des endroits surprenants. Il nous attend dans le chemin peut-être de notre travail, de nos échecs, de notre fuite, de nos fugues, de nos cachettes. Mais il nous attend. Il nous attend et son amour ne nous manquera pas. Et là, à partir du buisson qui est tout en feu, une voix sœur et atteint Moïse en plein cœur. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. J'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer. Moïse apprend plus qu'au catéchisme. Il apprend de Dieu lui-même. Que Dieu voit, que Dieu entend, que Dieu descend et que Dieu sauve. Et avec cette apparition de Dieu, la vie de Moïse va être transformée pour l'éternité. Toute sa vie et aujourd'hui encore, dans le royaume de Dieu, Moïse est vivant, transformé par cette apparition de Dieu. Oui, sa vie va changer, comme je souhaite que change la vôtre. Et cet homme silencieux du désert, cet homme replié sur lui-même depuis 40 années, il y a de quoi faire une dépression nerveuse. Cet homme va parler à Dieu face à face. Mais ça, ce n'est pas ça qui est le plus merveilleux dans la Bible. Le plus merveilleux, c'est que Dieu va lui parler face à face. Dieu va lui parler et Moïse va entendre Dieu. Moi, je parle à Dieu, mais je n'entends pas sa voix dans mon oreille. Et Moïse va entendre la voix du Seigneur dans son oreille et dans son cœur. Jamais personne n'a entendu ainsi la voix du Seigneur. Que les scientifiques nous laissent tranquilles. Imagination, il a cru, il entend des voix. Qu'on nous laisse tranquilles. Ce que nous avons vécu, nous l'avons bien vécu. Et nous savons en qui nous croyons. Et nous savons que Dieu est réel. Et qu'il s'intéresse à l'humanité, que son nom soit glorifié. Parce qu'il aurait pu éviter tout cela, il l'a fait. L'homme impatient qui tue là l'Égyptien va devenir l'homme le plus doux de la terre. Avis aux amateurs. Si quelqu'un veut être doux parmi nous, j'en serais très content. Si quelqu'un veut être patient, eh bien, le concours est ouvert. Mais sachez bien que vous n'arriverez pas à la cheville de Moïse. C'est le plus patient, c'est le plus doux que la terre ait connu. L'homme impatient a été transformé. Et l'homme berger d'un troupeau de misère va devenir le berger d'un peuple, le passeur d'un peuple. Mais ce Moïse, il ne veut pas entrer dans cette vie nouvelle, comme il peut être cela peut arriver à quelqu'un même parmi nous. Quelqu'un entend et ferme ses oreilles, son cœur. Il ne veut pas entrer parce qu'il résiste à Dieu. Il bégaye, il ne sait pas parler, sa bouche est lourde, embarrassée, les mots ne sortent pas facilement, il doute de lui. Mais Dieu se sert des choses faibles. Dieu se servira de cet homme qui a la bouche lourde, embarrassée, qui est plus habitué à ses chèvres et à ses troupeaux qu'à conduire un peuple. Dieu se servira de lui. Il sera prophète et aucun homme en Israël n'a paru comme lui. Personne. C'est le seul. Sa vie nouvelle, c'est qu'il va marcher désormais avec Dieu comme je souhaite que vous marchiez. Devant la mer Rouge qui est devant lui, le chemin est barré. Il faut qu'il passe. Il ne peut pas passer. Il a 2 millions de personnes sur les bras. Déjà avec 3 enfants, ça commence à faire. 2 millions de personnes. Des enfants, des ans, des gens âgés, des soldats, des troupeaux. La route est barrée. La mer Rouge ferme tout. Ses amis se retournent contre lui. Ça vous arrive pas, ça? Ses ennemis le poursuivent. Un malheur entraîne un malheur et quand une complication arrive, tout se complique davantage. Eh bien, Dieu va parler à Moïse en disant « Lève ta main, lève ton bâton et fends les eaux devant toi. » Et Moïse étend sa main et les eaux s'ouvrent. Cela pour nous dire que Dieu nous ouvre des chemins quand tout est fermé. Cela pour dire, faisons confiance à Dieu, ne murmurons pas comme s'il n'existait pas. Moïse sait bien que Dieu n'est pas comme le vaudeur, immobile, muet, aveugle, sourd. Dieu écoute le cœur de ses enfants. Dieu frémit quand le cœur de ses enfants pleure, quand on n'a plus d'espérance. Et Dieu ouvre toujours une porte, une solution, un chemin au milieu des flots. À chaque difficulté du chemin de Moïse, c'est ça la vie nouvelle. C'est ça l'épiphanie, c'est ça l'apparition de Dieu. À chaque difficulté, on n'évite pas les difficultés, mais il y a une promesse. Il y a Dieu qui est là, avec nous. On aura faim. Dieu enverra le pain des anges, le pain du ciel, la manne. On aura soif. Dieu enverra de l'eau à partir d'un rocher. Toujours Dieu a une réponse. Le ciel n'est jamais fermé. Le Seigneur a ouvert le ciel et il nous a dit, demandez ce que vous avez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci au Seigneur. Amen. Moïse, transfiguré par l'apparition du mont Sinaï, devient un homme de lumière. Même son visage rayonnait tellement il portait la lumière. Nous sommes transformés de lumière en lumière, d'éclat en éclat. L'apôtre Paul, encore un autre genre, c'est Saul, un homme rigide, sérieux, un homme comme le monde n'a plus beaucoup aujourd'hui. Et cet homme, tellement sérieux, voilà qu'il s'en prend aux chrétiens. Et voilà qu'il se met à raconter des histoires sur un nommé Jésus qu'il n'a jamais rencontré. Et c'est dommage. Il était pourtant à faire des études à Jérusalem. Saul, il n'a pas rencontré Jésus. Et Saul commence à s'énerver devant la nouvelle religion qu'on appelle la voie, le chemin, les gens du chemin. On en a assez des gens du chemin. Et il va vers Damas. Vous connaissez l'histoire. Il va en Syrie avec une permission. Une autorisation du tribunal, écrite, signée, de détruire les chrétiens. C'est le premier chasseur de chrétiens, le premier inquisiteur, c'est le premier persécuteur. Vous connaissez son nom maintenant, Saul de Tarse, ne l'oubliez pas. Mais en allant vers Damas, il ne respire que le meurtre et la menace. Il ne respire que le crime, tellement son cœur est en colère après le Christ et après les chrétiens. Il ne sait pas, en allant vers Damas, dans la chaleur de ce midi, où il court avec ses camarades, il ne sait pas que dans quelques instants, la grâce de Dieu va le toucher et le transformer. On ne se méfie pas assez de l'amour de Dieu. On ne se méfie pas assez de cet amour qui nous enveloppe, qui nous cherche, qui nous attire, qui nous appelle. Dieu va parler à Saul. Je pense qu'il était sur son cheval, mais ce n'est pas écrit comme cela. Mais on ne se déplaçait pas en TGV. Et voici que sur le midi, il a le choc de sa vie. Le coup de foudre dans le bon sens du terme. Voici qu'une lumière va venir du ciel. Il va entendre dans cette lumière une voix comme Abraham l'a entendue, comme Moïse l'a entendue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Terrible comme voix. Qui est cet homme ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul a compris. En persécutant les chrétiens, il persécutait le Christ. Quand on donne un coup de poing à un chrétien, on donne un coup de poing au Christ. Il a touché au Dieu d'Israël. il a compris qu'il a été en train de commettre un péché grave, immense, grand comme la mer, contre Dieu. Le plus grand des péchés, c'est être contre Dieu. Le péché qui est le plus, la source de tous les maux de la terre, de tous les maux de la famille, c'est qu'on se sépare de Dieu, on n'écoute plus Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes. Épiphanie de Jésus, apparition de Jésus, manifestation de Jésus. Le persécuteur est terrassé. Il est aveugle, il devient aveugle. Peut-être pour dire, Saul, tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu étais aveugle dans ton esprit, tu croyais voir et tu ne voyais pas. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui croient savoir et qui ne savent pas. On ne sait pas, ils ne savaient pas qu'il était aveugle. Saul, eh bien, ses yeux fermés étaient pour lui dire, mon ami Saul, tu ne vois pas la vérité. Tu ne la comprends pas. Il est aveugle pour ouvrir les yeux plus tard, quelques heures plus tard, sur la vraie lumière et pour devenir missionnaire, apôtre. Le jour même, quelques jours après, il va aller prêcher à Damas, premier prédicateur de Damas en Syrie. Mais ce n'est pas un homme vaincu, ce n'est pas un homme terrassé qui va prêcher, c'est un homme transformé. Transformé par l'amour incomparable de Jésus. Et il disait, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle création. Il a fait de moi ce qu'il a voulu. La grâce de Dieu a agi en moi. Je suis ce que je suis grâce à Dieu. Je suis devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Pendant qu'il était dans une maison à Damas, on parle de Damas aujourd'hui. Trop. J'aimerais que ça se reproduise à Damas, pas vous ? Que l'on voit des gens devenir chrétiens. Il est dans une maison à Damas, il est aveugle, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est terrassé par ce qu'il a entendu. Je suis Jésus que tu persécutes. Travaillez, travaillez. Et voici qu'un homme frappe à la porte et entre. Jésus a ses correspondants sur la terre. Jésus sur la terre a ses officiers, enfin, ses serviteurs. Bonjour, je suis monsieur Ananias. J'ai reçu du Seigneur Jésus une parole et je viens pour parler à Saul. Et quand Ananias voit Saul, il dit, Saul, mon frère, c'était beau déjà, hein, dire mon frère à un persécuteur. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé. Saul, mon frère, il t'a appelé à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Voilà la vie nouvelle. Voir le Seigneur dans sa vie et entendre les paroles de sa bouche. Paul dira plus tard, je parlais mal de Dieu par ignorance. Je blasphémais par ignorance. Je persécutais le Christ par ignorance. J'étais violent par ignorance. Je dois vous dire que très souvent, nous sommes incroyants par ignorance. Nous péchons contre Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. On est incrédule parce qu'on ne connaît pas Dieu. Celui qui le connaît avec un cœur sincère dit oui, c'est vrai. Parce que le cœur sincère devant la lumière, il dit c'est la lumière. C'est la lumière. On ne peut pas dire c'est la nuit, c'est la lumière. C'est le Christ, c'est lui qui m'a parlé. Donc il disait, par ignorance, j'ai combattu contre lui. Mais la miséricorde de Dieu a surabondé. La foi m'a été donnée, dira Paul. L'amour m'a été donné, la compassion, le pardon m'a été donné, parce que sans l'amour, je ne suis rien. Cette plainte de Jésus va retentir dans son cœur toute sa vie. Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et il dira dans ses lettres, Je suis le moindre des apôtres. Je suis le plus petit de tous. Je suis le plus grand des pécheurs. Parce que j'ai touché à l'église du Christ. J'ai persécuté le Christ. Mais ce Saul, ce Paul, Paul veut dire petit. Ce petit Paul, cet homme, eh bien, il va devenir un flambeau pour le monde entier. J'aime lire ses épîtres. J'ai l'impression qu'il est là auprès de mon lit et qu'il me parle. Pour Paul, l'évangile n'est pas une règle de vie. L'évangile, ce n'est pas un code de vie, ce n'est pas un code de morale. C'est Jésus qui vient toucher nos cœurs par son amour. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est Jésus qui vient nous transformer, qui transformera nos cœurs en les rendant semblables à son corps glorieux de ressuscité. Dieu a le pouvoir de faire de nos corps humiliés par le mal, détruits par la souffrance, de faire de nos corps des corps de ressuscité comme le sien. Paul dit aux Corinthiens, si Jésus n'est pas ressuscité, vous croyez pour rien. Ça ne sert à rien de croire. C'est comme s'il nous disait, nous sommes des imbéciles. Ça ne sert à rien parce qu'on regarde quelque chose qu'on n'aura jamais. On regarde de loin avec une lorgnette un magnifique pays, mais ce n'est pas pour nous. Mais s'il n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. Mais puisqu'il est ressuscité, alors, vous pouvez espérer, vous pouvez continuer. Vous pouvez aimer, vous pouvez travailler, croire, le Seigneur sera fidèle. Amen. C'est quoi la vie nouvelle pour Paul ? Paul dit, j'étais saisi par le Christ. C'est ça la vie nouvelle. Ce n'est pas nous qui avons décidé quelque chose. J'étais saisi par le Christ. J'oublie ce qui est en arrière. Je ne regarde pas ce que j'ai vécu hier. Je me porte en avant, je cours vers le but. Et le but, c'est vivre avec Jésus, toujours. Amen. La vie nouvelle de Paul, peut-être que vous n'allez pas vous y reconnaître, mais peut-être que oui quand même. Il va connaître des naufrages, enfin des naufrages, on en a aussi. Parfois, la famille fait naufrage. Il a connu des nuits dans l'abîme, c'est-à-dire sur la mer, à nager sur la mer. Tout seul, là, il n'avait plus rien pour se tenir. Mais parfois, nous aussi, on n'a plus rien pour nous tenir. On ne sait plus en qui il faut croire, ce qu'il faut faire. Paul a été battu par des brigands. Parfois, nous aussi, on est battu. On nous dit des mots qui nous terrassent, qui nous font mal, qui nous choquent. Il a été en péril dans les villes. Mais la ville aujourd'hui, c'est une jungle. Il y a des périls partout. Il a été assiégé par les soucis. Mais qui n'est pas assiégé par des soucis parmi nous ? Qui est sûr de garder son emploi ? Qui est sûr de continuer sa vie conjugale jusqu'aux noces de diamant ? Tout est fragile aujourd'hui. Un jour, il s'est échappé de Damas, vous savez comment ? Dans une corbeille comme un chat. On l'a descendu par la muraille. Partout, Paul a été secoué comme vous l'êtes aussi. Il a été en danger, en péril. Mais il dit, et c'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure, ni la mort, ni la vie, ni les périls, ni l'épée, ni la faim, ni la nudité, ni les angoisses, ni les persécutions, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qu'il a dit. Et ça, c'était vraiment l'évangile tel qu'on on doit l'écouter. En arrivant à Corinthe, en arrivant en Grèce, cette cité, ce pays d'intellectuels avec des débardeurs sur les ports, des prostituées, avec tous ces gens, il leur a dit, je ne veux savoir qu'une seule chose parmi vous. Je vous presse Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. C'était le cœur de son évangile, parce que sur le chemin de Damas, il a entendu une voix qui lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Oh, quel bouleversement dans l'épiphanie. On est loin de la galette des rois, dis donc. une lumière qui apparaît pour faire de nous des lumières. Le Christ qui vient faire de nous des enfants de Dieu. C'est la beauté des beautés. Je vous invite à incliner vos têtes, à prier le Seigneur, à ne pas rester comme vous êtes. Je vous invite à changer cette année, à aller en pleine eau, à vous jeter dans les bras de Dieu, à vous jeter dans les bras de Jésus-Christ. Dieu est apparu pour que nous paraissions devant lui un jour. Je prie Dieu pour vous. Seigneur mon Dieu, à travers ces hommes, ces femmes de la Bible, tu nous montres que tu es venu pour transformer l'être humain, lui pardonner ses péchés par la croix et le conduire dans une vie de qualité, de quantité par la résurrection. Nous voulons nous laisser saisir aussi, Seigneur. Nous voulons nous laisser prendre par la main. Après Abraham, Moïse, Paul et d'autres, nous voulons dire, je sais en qui je crois. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner sur moi. Quand je suis faible, tu me rends fort. Merci pour ta parole de ce jour. Amen. Merci pour la vie nouvelle. Et nous aimons, Seigneur, répéter ce verset. Parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, on n'en connaît pas toute la portée. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un appartient au Christ, il est devenu une nouvelle création. Amen. Fais ces choses dans cette année. Amen. Bonne année, mes amis. Que Dieu vous conduise, que Dieu vous illumine, vous éclaire.